De Radio Classique avec François Geffrier.
Esprit libre avec Anne de Guigné, bonjour.
Bonjour François.
Journaliste au Figaro et Marc Lambron, écrivain académicien, bonjour Marc.
Bonjour.
Rebonjour, puisqu'on se parle tous les matins aussi à 7h20 pour votre chronique. Et si on parlait français? Alors on en a parlé dans la revue de presse à l'instant et avec David Barou juste avant 8h. Les cinémas français ont connu une bonne année 2023. Ça, c'est pas français, souligne Marc Lambron, c'est la Century Fox, effectivement. 180 millions, mais ça nous met dans l'ambiance. 181 millions d'entrées, plus 19% sur un an, cela reste en dessous des niveaux d'avant Covid. Quand même, ce regain de forme, est-ce que c'est de nature à vous réjouir, Marc Lambron?
Ben, ça me réjouit ou ça me confirme, parce que la France, c'est quand même la fille aînée du cinéma. Il y a été inventé, le plus grand festival de cinéma du monde, Cannes, c'est chez nous. Il y a cette exception française depuis Malraux, c'est-à-dire ce système de financement et protection qui fait que, bon an, mal an, on produit 200 films avec un réseau de salles rénové, et puis des consortiums intégrés comme Pathé ou Gaumont. Mais je dirais qu'il y a quelque chose de plus, c'est que c'est comme le jazz, c'est que la France a donné ses lettres de noblesse intellectuelle au cinéma. Dès avant-guerre avec l'extrême droite, l'histoire de Brasillac, l'histoire du cinéma de Bardèche-Brasillac, à gauche avec André Bazin, Positif, Cahier du cinéma. Quand vous écoutez les entretiens de Hitchcock avec Truffaut, qui ont été diffusés, vous voyez combien Hitchcock est ému d'être gentrifié par un jeune cinéaste français. Et donc je dirais que le cinéma persiste dans ce que les enquêtes du ministère de la Culture appellent les pratiques culturelles des Français. Soutenu par une critique d'ailleurs qui est tout à fait diversifiée, mais de qualité. Libé n'aime pas les mêmes films que le Figaro. Et puis, il y a une dernière chose, c'est qu'on reste quand même... Godard disait le cinéma américain se pléonasme. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais il est vrai que les salles ont été remplies par des blockbusters, comme on dit en bon français, et qu'on a vu cette année, par exemple, Babylone, Oppenheimer, le Scorsese, Killers of the Flower Moon, même Barbie. Mais, en face, il y a Anatomie d'une chute, il y a Justine Triet.
Et qui était justement la Palme d'Or à Cannes cette année.
Palme d'Or à Cannes, et puis il y a les Mousquetaires français.
Anne de Guigné, est-ce que ça veut dire, ces bons chiffres, que pour le cinéma, comme pour d'autres secteurs, on peut penser aux restaurants, à l'aéronautique par exemple, la pandémie de Covid n'a pas tout cassé, que finalement ça n'est qu'une question de temps avant que les choses se remettent en place?
C'est la question, François, et d'ailleurs Augustin dans la revue de presse en disait deux mots tout à l'heure, lui disait il disait que les professionnels estiment qu'en 2024 on ne retrouvera toujours pas les 200 millions d'entrées, parce que c'est vrai que d'ailleurs, ça fait du bien de voir tout le milieu du cinéma se réjouir. En général, c'est un milieu où on se plaint plus tôt. On a eu 200 millions d'entrées. C'était depuis 15 ans, en fait. Donc là, quand même, ça remonte. Hein. Vous savez, au cœur du Covid, évidemment, les salles étaient fermées. Les rentrées étaient tombées à 60 millions. Donc, ça remonte, mais on est encore loin des 200 millions. Est-ce qu'on y reviendra? Je ne sais pas. La plupart des autres industries qui avaient été touchées par le Covid sont revenues au niveau d'avant Covid. Vous avez la restauration, les théâtres, les cinémas ont à peu près retrouvé leur étiage d'avant le Covid.
Donc, la lecture, je crois aussi, les livres.
Ouais. Donc, à voir pour le cinéma. Évidemment, je partage avec Marc un enthousiasme pour le cinéma, donc je l'espère. Mais peut-être ce qui serait intéressant aussi, c'est de s'interroger sur ce système si français du financement du cinéma.
Voilà, là, je que pour vous, 200 films par an, comme le décomptait Marc, c'est trop, en quelque sorte?
Oui, et là, je mets un peu ma casquette, mais bon, je suis là pour ça, de journaliste économique. Il y a un rapport sénatorial qui disait que les financements du cinéma montent jusqu'à 1,7 milliard d'euros. C'est difficile à décompter. Hein. C'est un sujet à polémique, puisque vous avez des centaines d'aides, des aides fiscales, budgétaires, des crédits d'impôt, des prêts garantis. Voilà, il y a tout un...
Des Sofica, mille et une
aides. Mais donc c'est une aide massive, c'est un choix en effet français, dont je me réjouis, mais qui pourrait sans doute être rénové, parce que vous avez des chiffres incroyables. Vous avez un tiers des films français qui sont aidés ont moins de 20 000 entrées. C'est quand même impressionnant.
Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a ces petits films, ou ces films plutôt qui font peu d'entrées, qu'à la fin, il y a aussi des réalisateurs qui grandissent et qui, un jour, ont un succès à l'étranger?
Tout ça va avec quand même un milieu. Ils se croisent le monde. Donc, ce sont des génières de luxe. Les intermittents, chaque année, ou quasiment, le ministre de la Culture est apostrophé lors des Césars. Bon, il n'y a pas d'intermittent de la littérature, il n'y a pas d'intermittent de la sculpture, il n'y a pas pas l'intermittent de la musique. Bon, après, en effet, il y a 2-3 ans, j'avais demandé à un réalisateur de mes amis, sur les 200 films de l'année, je sais pas quoi, 2018 ou 2019, combien de chefs-d'œuvre, il m'avait dit zéro. Donc, ce
bon, qui là, c'est une question de point de vue.
C'est une question de point de vue, mais il y en avait peut-être un peu plus quand Truffaut, Louis Malle, Rivette et quelques autres étaient dans l'activité.
Tant qu'on a des palmes d'or, on peut se dire qu'il y a quand même quelques chefs-d'œuvre, en tout cas salués par leur père. Anne de Guigné, vous vouliez rajouter un mot?
Non, et c'est vrai que ceux, faut pas toujours avoir un point de vue nostalgique, mais ceux qui regrettent le grand cinéma des années 70 vous disent qu'à l'époque, il y avait nettement moins d'aide.
Oui.
Et c'est quand même l'époque où le cinéma français, en effet, était vraiment au sommet.
Alors, autre sujet pour vous, chers esprits libres, on reste dans le domaine de l'économie. Les retraites ont augmenté lundi 1er janvier, plus 5%, logique me direz-vous, au vu de l'inflation. Mais Anne de Guigné, certains économistes se demandent s'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Pourquoi ça?
Oui, c'était en effet dans le code de la sécurité sociale. Vous savez, vous avez des calculs très complexes, notamment qui tiennent compte de l'inflation. Et donc, c'était dans le code de la sécurité sociale d'augmenter les retraites de 5,3%. Mais il faut savoir que le gouvernement, enfin, les derniers gouvernements, très souvent, s'en affranchissent complètement et peuvent décider que, voilà, pour une raison X ou Y, première raison qui est la dette publique, les retraites ne seront augmentées que de 2%. Et ça a créé des polémiques, parce qu'en effet, les actifs, en fait, ont subi de manière bien plus difficile l'inflation que les retraités, parce que les salaires ont augmenté, mais de manière beaucoup plus décalée, tandis que les retraités sont chaque fois, au premier du mois, sont augmentés au même rythme que l'inflation. Et vous savez, ce système, en fait, ça remet derrière, c'est une interrogation beaucoup plus large sur le système des retraites français. Bon, on connaît tous ce système, donc ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités, mais avec évidemment, de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs en raison de la démographie. Et du coup, les actifs ont des charges de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, en moyenne, le revenu des retraités est de 5% plus élevé que celui des actifs. Et vous arrivez à des aberrations qui sont quand même assez frappantes. Les gens qui épargnent le plus en France aujourd'hui, ce sont les plus de 70 ans. Mmh. Ils ont un taux d'épargne de 25%. Et quand même, il y avait l'idée d'un cycle de vie où vous épargnez quand vous travaillez. Évidemment, l'État vous aide, et surtout, il faut aider les retraités modestes, mais avec l'idée quand même de vous désépargner à la fin de votre vie.
Oui.
Et l'État est là pour faire un matelas pour les gens qui auraient du mal. Mais alors, cette idée qu'on arrive à un point où le moment où vous êtes le plus à l'aise, vous pouvez le plus épargner, est à la fin de votre vie, devient assez absurde. Et ça montre bien quand même la nécessité sans doute de revoir encore les retraites françaises.
Marc Lambron, est-ce que les retraités sont privilégiés, en tout cas par les pouvoirs publics?
D'abord, on ne va pas dire que Macron favorise sa classe d'âge. Alors, c'est pas qu'il soit gérontophile, mais c'est que tout de même une bonne partie de sa base électorale se trouve aussi chez les seniors, comme on dit. Alors, en effet, c'est une classe d'âge en expansion qui, en général, a déjà accédé à la propriété. Donc, l'argent qu'elle reçoit est disponible pour d'autres consommations, notamment des consommations culturelles, loisirs, etc.
Ou
pour une redistribution ou pour gratifier les enfants et les petits-enfants. Ce qui fait qu'il y aurait peut-être là comme une sorte de ruissellement, là encore, avec cet argent qu'on donne aux retraités. Et que peut-être que Macron fait une sorte de keynésianisme, je vais pas dire gériatrique, mais en tout cas à l'usage du troisième et quatrième âge, en injectant dans ce secteur de la population de l'argent qui peut ensuite prospérer et faire des petits, si j'ose dire.
Une affaire politique dans l'actualité, c'est une enquête du journal américain le Washington Post sur un parti politique français, le RN, Rassemblement National, accusé de lien avec la Russie. Moscou tenterait ainsi d'affaiblir le soutien français à l'Ukraine. Qu'est-ce que cela vous inspire, Marc Lambron?
Ça m'inspire que l'intérêt de Poutine, c'est de pactiser avec ce qui ressemble le plus à une tentation illibérale dans les démocraties occidentales. Et c'est vrai de Trump, c'est vrai d'Orban, et ça peut être vrai demain, du RN. Autrement dit, c'est une sorte de pacte de contournement pour introduire un coin, une fissure dans le bloc démocratique. Alors, en effet, il y a toutes sortes d'axes aberrants qui sont possibles. Je pense qu'on va assister à des hybridations étonnantes. Mais souvenons-nous simplement d'un exemple historique, 1939-1941. C'est un moment où le pacte germano-soviétique est en action, est opérant. Donc, Hitler-Staline. À partir de 1940, la France collabore avec Hitler. Et donc, on avait un axe Vichy-Berlin-Moscou. Alors, ça n'a pas duré, parce que à partir de juin 41, ça se disloque. Mais je pense que demain, on peut voir apparaître également des monstres de la raison, de la politique, et qu'on a raison d'être vigilant sur, sur ces clonages ou ces hybridations, cette biopolitique étrange.
Anne de Guigné, biopolitique ?
Biopolitique...
Par métaphore, mais...
Biopolitique par métaphore.
Par greffe.
Non, mais on voit que le RN conserve une grande ambiguïté vis-à-vis de la Russie de Poutine. Les députés européens votent de manière très mesurée ou pas les aides à l'Ukraine. D'ailleurs, il y a une fission qui est intéressante entre Bardella et Marine Le Pen sur le sujet. Bardella, assez vite, est sorti du bois pour parler de... pour parler d'un égarement collectif à l'égard de Poutine. Et juste quelques jours après, Marine Le Pen, elle appelait une conférence de la paix pour calmer, amener la paix dans cette région du monde. Donc on voit bien qu'il y a des tensions au sein du parti. Évidemment, Poutine joue dessus. Mais ce qui est intéressant, peut-être pour compléter ce que disait Marc, c'est que Poutine, il a trouvé dans chaque pays des alliés. Et moi, j'ai lu là pendant les vacances le livre de Marion von Rettergen sur les gazoducs.
Oui.
Et on voit qu'en Allemagne,
Nord Stream,
c'est le SPD de Schröder avec qui il a pactisé parce qu'il avait un autre argument qui était économique.
L'ancien chancelier devenu un cadre de Gazprom.
Tout à fait. Et derrière Schröder, tout l'environnement, enfin pas tout l'environnement, mais toute une partie du SPD avait suivi. Donc là, vraiment, c'était des bons démocrates, modérés comme on aime. Donc on voit que dans chaque pays, Poutine essaye de trouver ses alliés. En France, très clairement, c'est avec les partis libéraux. Et dans cet article, en fait, il mêle, je pense, deux arguments. Le fait que le RN, à l'époque le FN, est en 2014 contracté un prêt avec la Russie. Là, évidemment, on peut s'interroger sur le fait d'avoir choisi la Russie. Mais je pense qu'on peut aussi surtout s'interroger sur le financement de la vie politique française. C'est pas normal qu'un parti de cette taille n'ait pas pu trouver un prêt auprès d'une banque française.
Le RN avait dû s'endetter auprès d'une banque russe. Hein.
Voilà. Et je crois que, oui, je me rappelle qu'historiquement, c'était la Société Générale, leur banque. Et pour des raisons réputationnelles qu'on comprend bien, la Société Générale leur avait demandé de clore leur compte. Mais ça pose beaucoup d'autres questions. Et après, la position du RN sur l'Ukraine, on voit bien que derrière, c'est une vision de l'Europe. Parce que le RN n'a pas forcément ce souhait de voir l'Europe devenir l'Union Européenne, devenir une grande puissance politique qui s'affirme et qui va fortement combattre la Russie.
C'est ce qu'on appelait autrefois la cinquième colonne.
Marc Lambron.
C'est les orgues de Poutine maintenant, puisque nous sommes à Radio Classique.
Marine Le Pen avait été reçue par Vladimir Poutine en 2017 lors de la campagne. Il avait eu sa photo en quelque sorte avec Vladimir Poutine comme un trophée. Est-ce que vous avez l'impression que elle peine encore à clarifier sa position aujourd'hui vis-à-vis de Poutine, ou en tout cas de la Russie de Poutine, Marc Lambron ?
Je crois qu'il y a un syndrome, il y a une fascination pour les politiques de la puissance. Il y a une fascination pour les autocraties. Et ça, je pense que ça reste dans le génome d'une extrême droite française. Il y a les bons géants dans les comptes et il y a une sorte de bon tyran, si l'on veut, nonobstant les circonstances adverses et tragiques du moment.
Alors, dernier sujet qui vous occupe ce matin, chers esprits libres, il y a on le lit notamment ce matin dans l'excellent journal Le Figaro, chère Anne de Guigné, la justice américaine qui pourrait rendre public 200 noms liés à l'affaire Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein accusé d'avoir pratiqué une forme d'esclavagisme sexuel avec des mineurs à grande échelle. Parmi ces noms, on évoque Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates, le directeur de la CIA. Alors, est-ce à nouveau un grand déballage public où on jetterait comme ça en pâture des fréquentations publiques d'Epstein, on les mélangerait avec de véritables trafiquants d'esclaves sexuels? Qu'en dites-vous, Anne de Guigné?
Alors, il faut voir, je crois que c'est le fait de rendre public ces noms, c'est l'issue d'une procédure ancienne, une procédure périphérique avec le grand procès Epstein. Et c'est une magistrate du tribunal fédéral de Manhattan qui l'a demandé. C'était suite à une demande d'un journal de Floride, je crois. Après, je suis pas spécialiste du système judiciaire américain, donc je me rends pas compte dans quelle mesure c'est complètement exceptionnel ou pas. Mais c'est sûr que vu de Paris, en tout cas, cette demande de transparence absolue, moi m'interroge parce que qu'on connaisse les coupables, qu'il y ait des procès. Évidemment, c'est normal. L'affaire Epstein, c'est quand même l'incarnation de l'horreur, et que la justice soit très ferme avec tous ceux qui ont collaboré. Et évidemment, qu'on rende public des noms de gens qui juste travaillaient de loin, sont innocents, j'avoue que j'ai plus de mal à comprendre à comprendre l'intérêt du fonds.
On les mêle un petit peu à ce nuage d'opprobre autour de Jeffrey Epstein, selon vous, Marc Lambron ?
Moi, je crois que c'est systémique et c'est plus ancien. C'est-à-dire que dans une société puritaine, vous avez besoin d'avoir des repoussoirs, vous avez besoin d'avoir des Sodome et Gomorre qui fascinent. Bon, dès les années 20, c'est Hollywood qui est désigné. Lisez le très bon livre de Kenneth Anger, Hollywood Babylone. Il y a une annexe qui s'appelle Las Vegas, qui est également un endroit un peu recommandable. Et vous voyez les années 60, Sinatra, Mafia, Kennedy, de nouveau Hollywood dans les années 70, les affaires Polanski, puis Woody Allen, Kevin Spacey maintenant. Bon, là, on est nettement dans une ère Epstein-Weinstein, c'est-à-dire le cinéma, la politique, Clinton ou Trump, on les a vus dans ces parages. N'oublions pas que Trump, d'ailleurs, fait une apparition dans un film de Woody Allen, Celebrity. C'est assez étonnant. Donc, les grands de ce monde. Alors, ça va de la délation croustillante à la jalousie frustrée. Bon, il est certain que l'époque n'est pas très bonne pour les butors et que l'impunité des mufles et des forceurs est aujourd'hui mise en cause de par Dieu en France. Voilà, il reste que le sexe, au fond, ça restera toujours ce que Georges Bataille appelait la part maudite, la face obscure de la lune, et qu'il y a là quelque chose d'un peu sorcier. Pour moi, là, je dis juste un mot sur l'affaire Depardieu, parce qu'on n'a pas le temps. Pour moi, le vrai marqueur, vraiment, c'est, bon, là, il y a pétition contre pétition, c'est le nombre de féminicides.
On en a parlé dans les journaux ce matin.
Il reste constant. Il reste constant en France, 120 par an. Donc, MeToo, pas MeToo, ça continue, et c'est ça qu'il faudrait mettre, à mon avis, mettre en exergue.
Effectivement, des chiffres en très légère baisse, mais que valent quelques morts en moins, alors qu'effectivement, ce sont des cas individuels et que le chiffre reste colossal. Vous l'avez cité.
Et que l'âge moyen du meurtrier est plutôt aux lisières de la quarantaine. Les boomers sont exonérés, sont innocents, pour une fois.
Les esprits, lui, en tout cas, sont chaque matin sur Radio Classique en direct à 8h40. Merci à vous deux, Anne de Guigné et Marc Lambron.
Merci, François.
Et très bonne journée. Il est 8h58 dans quelques